Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Fréquence Mitral, chers lycéens, lycéennes. Voici donc les nouveaux cours dont je vous avais parlé pour la semaine dernière, donc qui sont principalement pour des élèves de seconde et de première. Je vais commencer par les secondes aujourd'hui, mais ça concerne aussi les adultes qui ont envie de se cultiver. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la monarchie absolutiste de droit divin sous Louis XIV de 1643 à 1715. Le roi de France, Louis XIV, est l'incarnation de la monarchie absolutiste de droit divin. Le roi Louis XIV est un roi par hérédité. C'est le fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche, et comme Bourbon, le petit-fils du roi Henri IV. Il devient roi par la mort de son père le 14 mai 1643 à l'âge de 5 ans, et le restera pendant 72 ans jusqu'à la date de sa mort. Il est roi de droit divin par son sacre à Reims, par son couronnement, comme le veut une tradition royale depuis le baptême de Clovis. Il devient donc personne sacrée, au-dessus de tout autre noble, y compris de sa famille. Louis XIV, à l'orangerie, à Versailles, lave chaque jeudi saint les pieds des jeunes, car on lui prête des pouvoirs de guérison, c'est-à-dire thaumaturgiques, notamment de soigner les écrouelles, c'est-à-dire des ganglions de la tuberculose. Il n'est cependant pas libre, mais lié à l'État et à son royaume. Il se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi d'Espagne Philippe IV, pour des raisons de stratégie politique. Louis XIV ne règne pas avant 1661. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse le gouvernement à un premier ministre qui est son éducateur politique, mais aussi l'amant de la reine, c'est-à-dire le cardinal Mazarin. C'est le cardinal qui, avec Anne d'Autriche, assure la régence et le gouvernement du royaume jusqu'à la majorité du roi. C'est ce duo qui affronte les Frondes, nobles et parlementaires, qui refusent la monarchie absolue et réclament un partage des pouvoirs. 1648-1649, c'est la Fronde parlementaire, contre notamment la hausse des impôts et l'invention de nouveaux impôts. Et en 1650-1653, c'est la Fronde des princes et notamment du grand prince de Condé. Celle-ci est à mettre en rapport avec la première révolution anglaise ou grande rébellion en 1642-1651. Sous le règne de Charles Ier et son exécution le 30 janvier 1649 à Whitehall, non loin de Winchester. De Westminster, pardon, et le début de la République, donc de Cromwell. La monarchie absolue de droit divin est une réponse politique au chaos des révoltes. Le terme d'absolu, au XVIIe siècle, est synonyme de parfait, d'harmonie. Les divisions ne peuvent cesser que sous l'autorité d'un prince vers lequel se concentrent tous les pouvoirs. C'est cette soumission au roi soleil dont il est ici question. Le roi doit soumettre tous ses sujets où qu'ils se trouvent. Le roi soumet les nobles et les bourgeois à son autorité. Versailles, et avant la cour dans les châteaux où il va notamment pour chasser, est le lieu de résidence de la cour du roi. Donc à Versailles, le roi gouverne seul. Il prend les décisions, mais il a un gouvernement sans premier ministre. Dans ce gouvernement, on voit notamment Jean-Baptiste Colbert, qui est en fait le grand ministre, l'un des grands ministres du roi Louis XIV. Il est déjà au service de Mazarin avant que le roi ne règne. Il est grand ministre du roi, notamment pour toutes les affaires d'économie, des finances et la marine. Il a une vision étatique de l'économie. Il est l'initiateur des verreries cristaux français, textiles de luxe et des soieries lyonnaises, ainsi que des tapisseries gobelins. Il est issu de la noblesse et de la banque. Puis viennent d'autres ministres au conseil du roi. Vous connaissez certainement celui de Vauban. Ce dernier est notamment chargé de défendre le royaume par la construction de forteresses, comme nous en avons d'ailleurs des preuves, notamment à Briançon, à Neubrisac, à Lille, mais aussi les forts de Saint-Jean et de Saint-Nicolas à Marseille. Le roi soumet les nobles à l'étiquette dans son château de Versailles. Assister au lever, au coucher, à la toilette du roi devient un signe de la gratitude du roi envers vous, jeunes courtisans ou vieux courtisans. Il faut être à la cour pour avoir une charge ou une pension. Les fastes de la cour obligent les nobles à s'endetter. D'autant plus que, en dehors des bals, on s'y embête fermement et que les nobles s'adonnent à des jeux de cartes et autres où ils misent énormément d'argent. Pour le courtisan, tout l'enjeu est de savoir tenir son rang. Il faut des toilettes, il faut des chemises les plus blanches possibles. D'ailleurs, à l'époque, on ne se lave pas. À l'époque, on fait ce qu'on appelle des toilettes sèches. L'eau était en effet considérée comme étant vecteur de maladies. Donc, mais il fallait sentir bon. Donc, on avait multiples parfums pour tenir son rang. Le roi n'a donc plus ni de dents, ni de cheveux à partir de l'âge de 50 ans. Donc, peu importe d'ailleurs pour lui, les maîtresses n'ont plus de ni de dents, ni de cheveux. Donc, on porte la perruque. Le roi soumet la nature en surplombant du haut de son château de Versailles toute la nature. Relevez un jour que, si vous allez à Versailles, que les bassins et la nature sont en bas des grandes marches. Et que quand le roi se lève, eh bien, il surplombe la forêt, il surplombe ce qui représente les lacs et les mers. L'or, les peintures, les galeries des glaces, les fresques, les marbres, tout doit mettre en valeur la majesté au château de Versailles, c'est-à-dire la supériorité du roi. Gare à celui qui le critique comme Jean de La Fontaine ou le jeune Voltaire. Une lettre de cachet signée du roi vous envoie vite à la Bastille, tel est le pouvoir judiciaire du roi Soleil. Le roi est un conquérant. Le Roussillon, Lille, Strasbourg entrent dans le royaume. Il développe la présence française aux Amériques avec le développement du Québec et la découverte de la Louisiane. Les villes comme Détroit, Chicago, Saint-Louis, Baton Rouge, Nouvelle-Orléans sont fondées, y compris donc aussi, et ça on le sait un peu moins, eh bien les qualificatifs pour nommer les Indiens. Donc ce sont les Français qui ont inventé le terme de Sioux pour nommer les Lakota. Et si un jour vous allez dans l'Ouest américain, vous rendrez compte, notamment dans le nord de l'Ouest américain, que nombre d'Amérindiens portent des prénoms ou des noms français, du fait de ces coureurs des bois qui venaient du Québec et qui ont souvent fondé des familles métisses entre les Amérindiens et les Européens. Le roi est de droit divin. Il doit soumettre notamment les catholiques, ça on le sait moins, on le dit moins, et notamment les dévots, c'est-à-dire tous ceux qui pensaient que il fallait être plus rigoriste, plus en phase avec le message du Christ. Et donc, ces dévots, ces pieux, sont notamment décriés dans la pièce de Molière, Tartuffe. L'Église de France est soumise au roi et elle doit se gouverner par ses propres lois. Le pape, on lui accorde bien une primauté parce qu'il est pape, mais certainement pas le gouvernement de l'Église de France. Et ça, c'est un des grands débats et l'une des grandes luttes entre le roi Louis XIV et le pape Innocent VI. Il ne veut qu'une seule religion en France. Après la mort de Colbert, il signe ce qu'on appelle l'édit de Fontainebleau en 1685. C'est-à-dire que à chaque royaume sa religion. Et ça non plus, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la France. C'est propre quasiment à toutes les monarchies de l'époque. En Espagne, il n'y a plus que des catholiques depuis l'expulsion des juifs et les martyrs des protestants. Dans les royaumes et les principautés allemandes, quand vous avez un prince catholique, ces sujets sont catholiques. Et quand vous avez un prince protestant, ces sujets sont protestants. Il en va de même d'ailleurs en Angleterre. Donc en France, en 1685, il reste 720 000 protestants. Sur ces 720 000, vous allez avoir à peu près 500 000 conversions de force. C'est-à-dire que Louis XIV va obliger d'abord les nobles à se convertir au catholicisme s'ils ont envie de rentrer à la cour du roi de France et de bénéficier de ses largesses. Quant à ceux qui résistent dans ce qu'on pourrait appeler le tiers-état, vous avez 200 000 protestants qui choisissent l'exil et qui vont aller donc vers d'autres principautés ou d'autres royaumes ou d'autres républiques, comme par exemple la principauté de Berlin, comme par exemple l'Afrique du Sud, les Pays-Bas, où ils vont être à l'origine de l'extension de la francophonie francophonie dans ces pays. Vous avez énormément de mots, par exemple à Berlin, qui sont d'origine française et qui marquent donc la présence de ce qu'on appelle les Huguenots dans cette ville. Quant à ceux qui n'ont pas eu la chance de l'exil, eh bien, ils sont persécutés. Nous avons des dragonnades, c'est-à-dire qu'en fait, un régiment s'installe dans une région, dans un lieu où il y a des protestants. Ils vivent sur le pays, c'est-à-dire que ces régiments ne sont pas soldés. Ils vont donc dormir chez vous, et puis ils ont le droit de faire en fait ce qu'ils ont envie. Celle-ci provoque une certaine terreur, hein, le fait de vous dire que vous avez des dragons qui vont venir chez vous, eh bien, provoque votre conversion. Y a-t-il des limites à ce pouvoir du roi ? Eh bien, ces limites sont nombreuses. La première, c'est que les critiques sont toujours possibles. Nous avons Jean de La Fontaine et ses bestiaires, comme le corbeau et le renard, qui sont une critique cachée du règne de Louis XIV. Nous avons aussi, dans les pièces de Molière, eh bien, des critiques sur les sociétés de ce grand règne. Les arts sont soumis au roi. Molière, Racine, Lully, Boileau, Lebrun, Le Nôtre s'affirme grâce au mécénat du roi, mais à la fin du règne, et notamment à partir du moment où Madame de Maintenon devient une quasi-reine, eh bien, nous avons des aristocrates qui vont de moins en moins être présents à Versailles et qui vont de plus en plus être dans cette capitale que le roi ne supportait pas. Et nous allons avoir la constitution de petits palais, des petits palais que l'on retrouve aussi en province, et notamment dans la ville d'Aix-en-Provence, où nous avons des petits palais qui ressemblent peu ou prou à ceux que nous voyons à Paris, et où notamment le représentant du roi, c'est-à-dire l'intendant du roi, représente la justice royale, le pouvoir royal dans la province, et il fait en fait la pluie et le beau temps. Et notez bien que le choix d'Aix-en-Provence avait une considération politique, puisque la grande ville normalement de la Provence, c'est Marseille, et que Marseille posait problème à l'autorité du roi, ce qui fait que le roi et notamment son ingénieur des fortifications Vauban, on construit le fort de Saint-Jean et le fort central, pas vers la mer, regardez bien, mais vers Marseille. C'est-à-dire que les canons n'étaient pas tournés vers une hypothétique attaque de, par exemple, des barbaresques à l'époque, puisque c'était ça le grand danger en Méditerranée, mais étaient tournés vers la population marseillaise, jugée pas très véritablement fidèle à la monarchie absolue de droit divin. Donc, d'où le choix pour avoir le siège d'un intendant, plutôt d'Aix-en-Provence. Nous avons aussi des princes et des nobles qui reviennent ensuite et ça nous pouvons le voir ici par exemple dans les Alpes d'Haute-Provence par le château de Saint-Mesmes et nous avons donc une monarchie absolue qui s'étend et qui devient en fait en tout cas dans ses ornements un principe de monarchie. N'oublions pas que le jeune tsar Pierre le Grand après un voyage en Europe et notamment en France, s'est rendu compte que Versailles et les châteaux qui étaient hérités de Versailles montraient la majesté d'un roi. Et quand il est devenu véritablement tsar et qu'il a voulu imposer son pouvoir de tsar à l'ensemble des Russies, quand il a fabriqué quand il a fait construire, la ville de Saint-Pétersbourg, il a pris exemple sur cet art classique vu en France et développé, je le rappelle, grâce à l'influence notamment italienne. Nous avons des arts qui ont pour vocation de servir le roi. Et cette monarchie absolue, attention, ne veut pas dire uniformisation, ni de la langue, ni des lois, ni des coutumes. Bien sûr, il y a une loi française, la loi du roi est en langue française, mais vous avez des coutumes. Vous avez des libertés municipales qui ne sont pas écrites obligatoirement en français et le français n'est pas parlé par la majeure partie de la population du royaume. Ce qui fait que le roi de France peut dire « mes peuples » et pas dire « mon peuple ». Donc la monarchie absolue, c'est l'acceptation de cette autorité du roi pour véritablement une paix intérieure. Et voilà, chers élèves, ce qu'il faut retenir de la monarchie absolue de Louis XIV. Je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous donc prochainement pour étudier ensemble eh bien comment cette monarchie absolue a été remise en question en Angleterre, en France et aux États-Unis. Nous allons nous quitter avec l'un des grands compositeurs du roi Louis XIV, Lully. Au revoir.